Nous allons poursuivre ce matin notre étude dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Et juste avant, j'ai lu l'histoire de... En fait, c'est Ravi Zacharia qui raconte l'histoire d'un homme. Pour ceux qui connaissent Ravi, c'est un apologète quand même assez influent. C'est un grand apologète. Il raconte l'histoire d'un homme qui a étudié à Wheaton College avec Billy Graham. Il s'est intéressé à la politique au point même qu'il était considéré pour être le premier ministre du Canada. Et dans son ascension vers la gloire, vers la popularité, il s'est mis tranquillement à faire des compromis même éthiques, moraux. Et il est tombé dans un scandale. Il s'est divorcé et il s'est remarié avec une autre femme. Et tranquillement, il s'est mis à embrasser une foi alternative qui correspondait mieux un peu à son mode de vie, évidemment. Et de fil en aiguille, il s'est mis à faire la promotion de cette foi. En fait, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Hein? Un peu disent-ils que... Pour lui, le seul moyen d'avoir la paix dans le monde, c'était d'accepter l'un l'autre. D'accepter l'autre comme il est. Reconnaître la foi de l'un l'autre. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Alors, il avait accordé une interview dans les années 90, une interview à la télévision. Et on lui posa la question, il dit, « Si je comprends bien, vous n'êtes plus un chrétien conservateur. » Alors, il répond, « Oui, je l'ai été, mais je suis devenu plus mature en grandissant. J'ai appris. » Et je rejette toutes les valeurs conservatrices qui m'ont été inculquées, enseignées depuis que j'étais petit. Alors, l'intervieweur lui demande encore et dit, « N'êtes-vous pas en train de sacrifier quelque chose en faisant cela? » Il dit, « Non, au contraire, j'ai grandi en faisant cela. » Alors, on lui posa une question un peu inattendue. Il dit, « Et Jésus dans tout cela? L'as-tu considéré? » Là, il y a eu un silence. Et il s'est mis à pleurer. Des larmes. Et il dit, « J'ai raté Jésus. » Vous savez, on vit dans une société où ce que la pression sociale est extrêmement forte pour faire accepter toutes sortes de choses, pour nous faire accepter toutes sortes de choses, basées sur certaines philosophies sociales, populaires, très libérales, de liberté individuelle. La pression est tellement forte que les médias nous poussent à avoir honte. En fait, poussent... les personnes à avoir honte des idées qui sont tendances conservatrices. Vous avez juste qu'à lire le journal de Montréal de cette semaine ou entendre les nouvelles. Lorsque ceux qui pensent autrement, qui pensent bibliquement, et parmi nous, probablement dans ces circonstances-là, on peut tenter d'accepter les idées qui plaisent à la culture ambiante. Et oublier de considérer Jésus. C'est difficile, c'est très difficile de ne pas succomber à cette pression de la société. On peut penser juste au mariage gay, au lobby gay. C'est très difficile, et cette pression d'oublier Jésus et de rater Jésus. Vous savez, les croyants juifs dont l'Épître aux Hébreux était écrit, subissait une forte pression pour revenir ou pour rester attaché au rituel de la loi mosaïque comme seul moyen de médiation entre Dieu et eux. Subissait une forte pression de revenir ou de s'attacher au rituel, au sacrifice de l'Ancien Testament. Et là, on voit que l'auteur va les encourager à travers toute l'Épître à considérer Jésus,
non comme un réformateur, non comme quelqu'un qui est venu renouveler le judaïsme, mais comme l'auteur du nouvel ère, d'une nouvelle alliance. Comme quelqu'un qui est supérieur à tout, à tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Jésus est supérieur à tout. Alors il veut qu'il les considère, qu'il considère Jésus. Et dans le passage que nous allons étudier ce matin ensemble, j'aimerais vous aussi vous encourager à considérer la personne de Jésus-Christ dans son œuvre et dans sa personne. Et particulièrement dans les 6 premiers versets du chapitre 3, comment qu'il est supérieur même à Moïse, qui est considéré comme le législateur, l'homme le plus respecté du judaïsme. Et le contexte est le suivant, c'est que l'auteur, on le voit depuis qu'on étudie l'hébreu, l'épître aux Hébreux, il nous a déjà démontré la supériorité de Jésus sur les prophètes, sur les anges. Dans Hébreux 1, les trois premiers versets, il dit « Jésus est la dernière révélation de Dieu aux hommes. Il est supérieur à toute autre révélation parce qu'il est la révélation finale et définitive. Il n'y a plus de révélation dans les Écritures après Jésus. » Il est supérieur aussi aux anges, et l'auteur de l'Épître donne des raisons pour lesquelles Jésus est supérieur aux anges. Il est dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les anges, parce qu'il est le Fils de Dieu, dans les chapitres 1, versets 4 à 5. Il dit « Tous les anges l'adorent et se prosternent devant lui et le servent. » Non seulement que Jésus est supérieur aux anges, mais on va voir aussi qu'il est supérieur à Moïse. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Hébreux, chapitre 3, et on va lire... les 6 premiers versets. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous glorifions. C'est intéressant, le texte commence par « c'est pourquoi ». Et ceux qui sont bons en grammaire vont savoir que l'expression « c'est pourquoi » peut être aussi dit « par conséquent » ou « ainsi donc ». Fait la liaison entre ce qu'il y avait, que l'auteur a dit auparavant. Donc, « c'est pourquoi » fait référence au chapitre 1, chapitre 2, ou même certains vont dire « sur la fin du chapitre 2 ». Il fait référence à ce qui... Il fait un lien entre ce qui a été dit et ce qu'il est en train de dire, ce qu'on vient de lire dans les 6 premiers versets du chapitre 6. Alors, sur la base de ce qui vient d'être dit, et cette base, c'est quoi? C'est la révélation suprême même de Dieu qui vient par Jésus-Christ. Et c'est pas par quelqu'un d'autre qu'on peut avoir accès auprès du Père. C'est par Jésus-Christ seulement. Et c'est pourquoi, frères saints, c'est intéressant, il qualifie... il dit « les frères saints, les qualités des destinataires de la lettre sont précisées ici. Ils sont des frères, ils sont saints, ils sont participants à un appel qui est céleste, c'est-à-dire qu'ils sont appelés de Dieu. Ceux qui acceptent Christ comme sauveur personnel participent à cette vocation céleste. Ce qui veut dire que notre appel vient du ciel, de Dieu même. C'est intéressant parce que lorsqu'on considère l'appel même des Juifs dans l'Ancien Testament, il y avait un lien terrestre. Et lorsqu'on considère toutes les bénédictions que les Juifs avaient dans l'Ancien Testament, c'était toujours terrestre. Quand Dieu disait qu'il allait bénir le peuple d'Israël, c'était rattaché souvent soit à l'agriculture, la récolte, soit par rapport à une victoire sur une autre nation, un autre peuple. Ou encore, c'est tout simplement une prospérité matérielle. C'était lié à un lieu, Canaan. C'était toujours terrestre. Et là, il est question de bénédiction ou encore de vocation céleste, un appel céleste. Mais c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. On ne voit pas quelque chose de terrestre, mais on voit que nos bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous avons quelque chose de plus grand. Et en lisant cette épître, en faisant l'étude de l'épître des Hébreux, on s'aperçoit très rapidement que les choses sont célestes. Et ça contraste très bien avec les promesses de l'Ancienne Alliance où tout est terrestre. Dans Paul dit dans Éphésiens 1, 3, il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Et peut-être, je vais juste ouvrir une parenthèse ici, il y en a ceux qui parlent de l'évangile de prospérité où des gens ont tendance à s'approprier des promesses de l'Ancien Testament pour dire « voici comment Dieu bénit ». Alors, on veut être béni pareillement. Mais, ils sont terrestres. Les bénédictions de cette nouvelle alliance sont célestes, sont spirituelles, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Pourquoi on veut s'attacher aux choses terrestres alors qu'on dispose déjà d'une réalité qui est céleste? Nous qui sommes frères, saints, nous qui avons part à cette vocation, le texte nous dit de considérer l'apôtre, le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Et considérer Jésus, l'auteur de ton salut. C'est intéressant, le verbe considérer, c'est un verbe qui est très expressif. Ça ne veut pas dire seulement de regarder une chose, de considérer une chose. Pas juste la regarder, mais de considérer d'une manière réfléchie. Considérer avec une attention particulière, pour faire un examen minutieux. Et dans le présent contexte, ça implique de comparer la personne de Jésus-Christ avec les autres leaders de l'Ancienne Alliance. Et dans ce cas présent, il nous parle de Moïse, mais après il va parler de Josué, il va même parler de Aaron, etc. C'est une considération, c'est un exercice minutieux que l'auteur invite ses lecteurs à faire par rapport à Jésus-Christ. Dernièrement, ma femme, puis bon, nous avions écouté le film Concussion, je pense que c'est le terme en français, c'est commotion. C'est un film basé sur l'histoire vraie du docteur Bennett Omalu, qui est un Nigérian, qui a été le premier à établir un lien direct, en fait, qui a été prouvé scientifiquement là entre les coups répétés à la tête avec une forme de démence au cerveau chez les joueurs professionnels au football américain. Alors, il s'est mis à examiner le cerveau de Mike Webster. C'est un ex-joueur des Steelers de Pittsburgh. Alors, il était légiste, je pense médecin légiste. Il s'est mis à analyser le cerveau de ce ex-joueur. Et là, il s'est mis à voir qu'il y a des protéines toxines qui affectent le cerveau. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a un moment dans le film où ce qu'il fait faire des analyses et quand il les reçoit, il est chez eux puis il s'est mis à considérer la chose parce que il s'est aperçu qu'il y a quelque chose d'anormal. Et là, il cherche. Alors c'est Will Smith qui joue le rôle du docteur Omalu, et là, on le voit. Il commence à considérer la chose. Il n'en revient pas. Alors, il s'est mis à fouiller de plus en plus. Il va à la bibliothèque, il va chercher des livres. Il va chercher des revues. Il considère la chose. Des bouquins, des manuels, il étudie la chose. Parce que c'est trop grand. Ce qu'il constate, ce qu'il voit. Alors, il fait faire d'autres analyses pour poursuivre la chose. Et là, c'était clair. C'était l'évidence même. Il y a un lien entre les coups répétés dans le... Tu sais, les casses, là, les joueurs, là, tu les vois. Je ne sais pas si... Moi, j'aime le football. J'aime beaucoup le football, mais... Après avoir vu le film... Oh! Tu vois des jeunes qui se cognent la tête ensemble. Oh, ça donne une autre perspective. Disons, je n'enverrais pas mon gars jouer au football. Alors, il découvre ce lien direct entre les coups répétés et cette forme de démence prématurée. Parce que beaucoup de joueurs au football, arrivés à un certain âge, ils souffrent de démence. Et là, ils nomment la maladie. La maladie s'appelle l'encéphalopathie traumatique chronique. Et là, c'était clair. Après des analyses, il s'aperçoit qu'il y a un lien direct. Et c'est comme ça que l'auteur nous invite à considérer Jésus. Et tu vas te rendre à l'évidence qu'il est supérieur à n'importe qui. Si tu considères, si tu analyses, si tu examines, si tu cherches, ça va être clair. Ça va être clair. Considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et l'auteur appelle les sélecteurs à fixer leur attention sur Jésus. Il les invite à considérer deux choses. L'apôtre, un envoyé, et souverain sacrificateur, c'est un prêtre. C'est un homme qui était chargé de présenter Dieu, de présenter à Dieu le sacrifice pour le peuple. Premièrement, l'apôtre. L'auteur donne ici, c'est un titre quand même qui dit inusité, l'appel apôtre, qui signifie tout simplement celui qui est envoyé. Et il y a eu des déclarations, on a vu que Dieu a parlé par son Fils, qui est supérieur aux anges, envoyé pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes. Et la Bible nous dit dans le verset premier de l'Épître, que maintenant, il parle en Fils, par son Fils. C'est pas comme un autre, il est pas pareil comme un autre prophète. C'est pas un autre, il n'est pas comme les autres. Il est le Fils. Il est le Fils. Et c'est à travers son Fils que Dieu nous parle. Il est aussi souverain sacrificateur, c'est lui qui bâtit. C'est lui qui établit le pont avec Dieu. C'est lui qui fait le lien. C'est lui le médiateur entre Dieu et nous. Il parle à Dieu pour les hommes. Il parle aux hommes pour Dieu. Il est un médiateur. Jésus est le parfait grand souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il n'y a personne d'autre qui pourrait aussi accomplir parfaitement cette tâche. D'ailleurs, un souverain sacrificateur comme Aaron, il fallait les remplacer. Et là, pour toujours, il sera et il est notre souverain sacrificateur. Et le sacrificateur devrait apporter un sacrifice pour faire l'expiation du peuple. Mais vous savez quoi? Si on revient en arrière et on imagine Aaron, il devait aller prendre le sacrifice puis l'apporter. Mais Jésus-Christ, lui, il est le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Considère Jésus-Christ, l'apôtre et le sacrificateur. Il est plus grand que Moïse. Alors là, il arrive au verset 2, verset 3 même, il dit, en effet, il a été jugé d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Wow, là, c'est... Les Juifs débarquent, là. Le Juif qui lit le texte, parce que pour lui, il n'y a pas plus grand que Moïse. C'est leur héros national. Et là, je me suis forcé de trouver un comparable pour nous. On n'a pas, malheureusement, d'héros national. Je dis, peut-être René Lévesque. Tu sais. Mais tu sais, je dis, je ne veux pas m'embarquer dans la politique. Mais on n'en a pas! Mais pour comprendre, pour un juif, leur attachement à Moïse, pouvait pas imaginer. Les juifs se glorifiaient de la loi mosaïque, de tout ce que Moïse les avait prescrit. Et peut-être juste pour vous donner deux exemples, ok? Dans Jean 9, il y a l'histoire de l'aveugle-né. Alors, c'est un aveugle-né que Jésus a fait un petit peu de boue, puis l'a guéri. C'était un miracle, mais sauf que c'était le jour du sabbat. Fait que là, on lui a amené voir les juifs, les pharisiens. Et là, il constate que Hey, il y a eu un miracle. Qui a fait ça? Alors, il se met à poser le gars à l'aveugle né. C'est qui t'a fait ça? Il dit, ben, regarde, je ne sais pas. Puis, hey, on va chercher ses parents. Alors, il dit, hey, est-ce qu'il était vraiment né aveugle? Il dit, ouais, ouais. Mais qui a fait ça? Alors, si vous voulez lire l'histoire, c'était très intéressant. Jean chapitre 9. À la fin, les Juifs, ils disent, parce que là, ils savent c'est qui. Et là, ils finissent par injurier le gars, l'aveugle né. Ils disent ceci, ils disent, parce que là, ils disent, mais vous voulez tant le connaître parce que vous voulez être son disciple? Ils disent, non. Ils disent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Voyez-vous, eux se glorifiaient, ils connaissent Moïse. Mais Jésus, lui, qui il est? Alors, un autre exemple, c'est dans Acte 6, lors de la lapidation d'Étienne. Dans Acte 6, le dernier argument qui a été trouvé par les Juifs pour lapider Étienne, vous savez, c'était quoi? Des blasphèmes, des paroles blasphématoires contre Moïse. Le verset 11, il dit que « Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Je ne sais pas si vous voyez l'attachement à Moïse. C'est vrai, de toute évidence, Moïse était un grand homme, est un homme de Dieu. D'ailleurs, Exode 33 nous dit que Dieu parla à Moïse face à femme comme un homme parle à son ami. C'est un grand homme. Il a reçu les 10 commandements, la loi même de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et la gloire de Dieu s'est reflétée sur lui. C'est un grand homme. Il a conduit Israël, il a sorti le peuple d'une manière extraordinaire à travers la mer Rouge. Ce grand homme, il a transmis les plans du tabernacle, l'arche de l'Alliance. Vous savez quoi? Dieu même s'est occupé de son ensevelissement. C'est Dieu qui l'a enterré. C'est un grand homme. Mais le texte, on dit que, verset 3, Jésus a été jugé d'une gloire autant supérieure que celle à Moïse. Alors, on peut se poser la question, mais elle est où la supériorité de Jésus par rapport à Moïse? Et le texte aussi, il va répondre à ça, en nous disant que Jésus est l'architecte. Jésus est le bâtisseur. Jésus est le constructeur. Alors que Moïse, lui, est juste une brique, et juste une pierre de la maison, est un élément de la maison. Jésus est le Fils, alors que Moïse, c'est juste un serviteur. C'est un serviteur. Jésus est fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Alors l'auteur compare ici uniquement la mission des envoyés. Les deux ont été fidèles. Moïse a été fidèle, Jésus a été fidèle, mais il y a une différence. Il conclut que Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ dépassent de loin tout ce que Moïse a représenté pour le peuple Israël. Et l'auteur démontre la supériorité de Moïse. Il le fait d'une manière très, 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 très intéressante ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas heurté les Juifs, dans le sens qu'il y avait moyen là de... Il n'a pas rabaissé Moïse. En lisant le texte, il n'a pas rabaissé Moïse. C'est pas des arguments qui manquaient. Moïse n'a pas été sans faille. Il y a eu des manquements. Mais il a cité aucun manquement. Mais il a choisi, c'est intéressant parce qu'il a choisi peut-être le témoignage le plus honorable que la Bible rend à Moïse. Dans Nombre 12, 7, il dit que Moïse, Dieu qui parle de Moïse, il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Alors, l'auteur reprend une parole de Dieu. Mais Moïse, c'est rien à comparer à Jésus. Et pourquoi Jésus est supérieur à Moïse? Parce qu'il est celui qui a bâti la maison. Et la maison ici, c'est l'ensemble des croyants de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. C'est lui l'architecte. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus qui bâtit sa maison. Et celui qui bâtit sa maison, la maison a plus d'honneur que la maison. Jésus a plus d'honneur que sa construction. Comme un peu un peintre ou un sculpteur a plus d'honneur que l'objet ou la toile qu'il a façonnée. Moïse peut être comparé à Jésus sur le rapport de la fidélité, mais il est bien inférieur pour l'honneur qui lui revient. Et l'autre élément qu'il mentionne par rapport à sa personne, lorsqu'on lit le verset 5 et 6, il dit que pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison comme un serviteur pour rendre témoignage à celui qui serait annoncé. Mais Christ, il est comme un fils. Jésus est supérieur à Moïse par rapport à sa personne. Bien qu'il ait dit que Moïse est un grand serviteur de la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, mais il ne reste seulement qu'un serviteur. Un serviteur de la maison, tandis que Jésus était le maître, le fils de la maison, l'héritier même. Au mieux, on peut dire que Moïse est décrit comme étant le serviteur de la maison, tandis qu'on voit que Christ, lui, il est le fils. Et une des choses qu'on peut rapidement peut-être regarder, c'est on voit que Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple de l'Égypte. En fait, l'Égypte, l'esclavage, on pourrait dire quelque chose qui est physique. Mais Jésus a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple, pour te délivrer, pour nous délivrer, pour faire un nouveau peuple, pour les délivrer d'un esclavage spirituel, de l'Égypte spirituelle, d'un esclavage du péché. Je vais leur avancer, je veux juste lire la fin du verset 6 qui nous dit que nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Certains, peut-être en lisant ça, peuvent être un petit peu nerveux en disant oh là là, si nous retenons, hein, c'est bien ça que je lis. Le si peut rendre peut-être plusieurs nerveux. Si nous retenons jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors certains voient dans ces versets que on peut perdre notre salut. Si vous ne persévérez pas, si vous retenez pas jusqu'à la fin cette espérance, est-ce que c'est ça? Je veux dire comme Paul, loin de là! Ou je veux dire comme on dit aux jeunes, parce qu'on étudie l'Épître de Romains avec les jeunes, no way! No way! Loin de là, loin de là! D'ailleurs, ça contredirait même le thème même de l'Épître qui nous dit de considérer Jésus-Christ, son œuvre qui est parfaite, accomplie à la croix. C'est cette œuvre qui nous garantit un salut éternel. Ça ne dépend pas de ta persévérance. D'ailleurs, tu n'as rien fait pour être sauvé et tu ne peux rien faire pour rester sauvé. C'est par grâce. C'est Dieu et Dieu seul qui est capable de te garder. Et ici à Rosemont, nous croyons que c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous enseignons, qu'une personne sauvée ne peut pas perdre son salut. Nous croyons que tous ceux qui sont nés de nouveau vont être gardés par Dieu et préservés par la foi jusqu'à la fin de leur vie. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te garde. Le croyant n'a pas la capacité de poursuivre sa marche dans sa foi par ses forces personnelles. C'est Dieu, dans sa fidélité, qui nous garde. Et c'est pour ça qu'il faut considérer Jésus. Qu'il faut considérer toutes ces bénédictions spirituelles. C'est Dieu, dans sa fidélité, qui nous garde. Nous croyons que les personnes qui ont vraiment accepté Christ, c'est-à-dire appelées, sanctifiées par son esprit, par son Saint-Esprit, ne peuvent être déchus. L'œuvre que Dieu a commencée en elles se poursuivra. Malgré les chutes, malgré les hauts et les bas, le croyant sera préservé par Christ, dont aucune de ses brebis ne sera arrachée de ses mains, comme il nous dit dans Jean 10. Personne ne les ravira de ma main. Et ce matin, c'était très intéressant parce qu'on a étudié avec les jeunes 12-17 la fin de l'Épître aux Romains, la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que Paul nous parle de qui nous condamnera, qui? Ça prendra quelqu'un plus fort que Dieu pour nous séparer de son amour. Qui est plus fort que Dieu? Qui? Alors cherche, qui? Il n'y a personne. Si Dieu est assez fort pour te sauver, il est assez fort aussi pour te garder. Ceux qui sont nés de nouveau vont persévérer parce que Dieu les garde. Ceux qui ne persévèrent pas ne font que démontrer qu'ils n'ont pas la foi pour être sauvés et donc ne sont pas gardés par Dieu. Alors, certains vont dire, mais comment expliquer le fait que les gens ont fait profession de foi, ils ont même persévéré, ils vont à l'église, ils ont même porté des fruits, mais ils finissent par abandonner la foi. Comment expliquer ça? Comment ont-ils pu marcher avec nous, être avec nous? Ce ne sont pas des chrétiens qui ont perdu leur salut, à mon avis. C'est que Jésus ne les a jamais connus. Ils n'ont jamais été sauvés. Ils avaient l'air de vrais chrétiens. Un peu comme la parabole du blé et de l'ivraie. Ils sont pareils. L'ivraie croit pareil comme le blé. Pareil. Mais à la fin, on va voir, au moment de la récolte, on va voir, un qui va produire du blé, l'autre, c'est la chenoute. Et Jean donne une réponse à ça. Dans 1 Jean 2, 19, il dit qu'ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, ils manifestent que tous ne sont pas des nôtres. Certains vont dire, mais est-ce qu'on peut d'abord se lâcher l'ousse et vivre comme on veut? Non, loin de là, Paul aussi répond à ça. D'ailleurs, c'est preuve que vous n'avez rien compris de la grâce. Si vous utilisez ça comme prétexte pour vivre n'importe comment. Loin de là. Mais ce que l'auteur veut encourager ici, c'est de dire que de considérer l'œuvre, considérer la personne de Jésus-Christ, son œuvre. Il est puissant. Et ce qu'il a fait, il est aussi puissant pour te sauver et pour te garder jusqu'à la fin. Laisse-moi conclure rapidement. Vous savez que plusieurs font des efforts pour trouver le salut Il y en a qui le cherchent activement, qui le cherchent vivement. Plusieurs vont se tourner vers peut-être la psychologie ou d'autres sciences humaines qui vont promettre une sorte de salut par la découverte de leur identité, de leur véritable moi. Et pour le juif, ça passait par l'observance de la loi de Moïse, par les rites, comme seul moyen d'établir un pont avec Dieu, comme seul moyen d'être agréable à Dieu. C'est par les sacrifices, par les rites. Et cette pression qu'ils avaient de retourner ou même de garder encore toutes les observances de la loi. Et pour nous aujourd'hui, pour nous frères, sœurs, la tentation est aussi là pour céder à de faux enseignements, de faux évangiles. De considérer Jésus-Christ plus autre chose. La pression est là de considérer Jésus, oui, mais plus autre chose. Je veux vous encourager à ne pas sous-estimer les bénédictions que vous avez en Jésus-Christ. L'Épître aux Colossiens nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout, tout. Pourquoi chercher d'autres choses? Considère Jésus, l'apôtre, le souverain sacrificateur. Considère-le. Mets ton focus sur lui. Un peu comme un caméraman, on voit qui ajuste son focus pour être sûr. Ou comme un tireur d'élite qui essaie d'ajuster sa mire. Focus sur l'œuvre de Jésus-Christ. Considère Jésus qui s'est offert en sacrifice à la croix pour toi, pour tes péchés. Peut-être si tu vis des temps difficiles, des tentations, des épreuves qui peuvent t'amener à douter. Mais considère Jésus-Christ. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que quiconque que tu peux imaginer. Son œuvre est une œuvre excellente. Éphésiens 1, 18 nous dit que Jésus puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infiniment grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Que le Seigneur vraiment puisse vous diriger ce matin, que Dieu puisse diriger vos regards, permettre que vos regards soient convergés vers son Fils qui a accompli toutes choses, qui a accompli toutes choses pour ton salut et pour ta marche jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur vous bénisse.